La biodiversité, c'est un peu le Facebook du règne vivant, le réseau social du règne vivant, car n'y voyez pas là la somme de la diversité animale ou de la flore, mais ce n'est pas la quantité qui compte, même si on s'alarme beaucoup sur la disparition de certaines espèces. Ce sont les liens entre les espèces qui intéressent, car elles ne sont pas des entités indépendantes les unes les autres. Le meilleur moyen de le voir, c'est de sortir dans un rayon, on le rappelle, n'excédant pas les 10 km, et d'observer l'environnement. Eh bien, lui, il observe l'environnement, c'est son métier. Il est naturaliste dans les Alpes du Sud, c'est Pierre Rigaud, bonjour.
Bonjour, c'est Jean-Michel.
Alors, pourquoi cette invitation? Parce que vous sortez aujourd'hui dans les librairies Ma Campagne aux éditions Mes Balades Écolo. Alors d'abord, cette question, avant de revenir vraiment sur cet ouvrage, est-ce que vous êtes naturaliste, Pierre Rigaud? Je vous pose cette question parce qu'à chaque fois que l'on vous invite, de nombreuses voix s'élèvent pour nous dire « Non, non, il ne fait pas partie de la liste des naturalistes. » Voilà. Alors, êtes-vous naturaliste, Pierre Rigaud?
Oui, je le suis, mais je ne sais pas à quoi font référence les gens qui disent ça. Je pense que c'est essentiellement des chasseurs un petit peu jaloux. Je pense qu'ils font référence à une liste qui est sur Wikipédia. C'est un truc pas très intéressant, à mon avis. En fait, naturaliste, ça correspond pas à un diplôme ou à une fonction qui serait par exemple reconnue par l'État. C'est un métier, c'est un travail, ou alors c'est une passion. Il y a des gens qui le font faire bénévolement, il y a des gens qui en font leur métier, comme c'est mon cas, et c'est avec soit différents diplômes qui peuvent être, comme c'est mon cas, des diplômes universitaires en biologie. Il y a des gens qui sont vétérinaires qui font le même travail, il y a des gens qui ont des BTS en gestion de protection de la nature qui font le même travail, ou il y a juste des passionnés qui font le même travail qui consiste à essayer d'observer et de comprendre la faune, la flore dans notre environnement, voilà.
Et comment vous réagissez quand on vous dit que vous êtes un extrémiste vert et que votre cible, de toute façon, c'est à chaque fois les chasseurs?
Non, mais extrémiste vert, c'est... Alors, comment ? Effectivement, moi, je travaille beaucoup sur le sujet de la chasse précisément parce que dans mon activité de naturaliste, en s'intéressant à la faune en particulier aux mammifères et aux oiseaux, et en vivant à la campagne, eh bien, on est confronté souvent aux chasseurs, donc effectivement... Comme j'essaye d'être actif sur le plan militant, disons, au-delà de l'observation, dans un champ que je connais bien, eh bien, je m'intéresse beaucoup à la chasse et je suis actif sur ce sujet. Donc, nécessairement, il y a beaucoup d'opposition du monde de la chasse, mais c'est pas le plus important. Je pense que souvent, on m'attaque sur ma personne et je crois que les arguments de fond, ils sont assez indépassables et moi, j'ai pas de problème tant qu'on les personnes en face qui sont pas d'accord avec moi, qui sont en fait minoritaires, n'ont pas d'arguments. Et ce qui m'intéresse, c'est les arguments de fond. Et d'ailleurs, c'est tout ce que vous avez rappelé en introduction, c'est-à-dire l'importance de cette biodiversité et puis le déclin de la biodiversité. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais.
On vous a entendu notamment cet hiver par rapport à certains arrêtés du côté des Hautes-Alpes concernant la chasse et la fédération de la chasse de réagir dans le même temps en disant « mais nous, on a un rôle dans la biodiversité, on la protège la biodiversité ».
Alors, les chasseurs ne protègent pas du tout la biodiversité, en tout cas... Quand ils font de la chasse, dans la mesure où il y a même des espèces qui sont en déclin et qui sont toujours chassables, quand les chasseurs disent « nous, on protège la biodiversité », c'est par exemple lorsqu'ils plantent des haies ou d'autres activités comme ça, et dans ce cas-là, c'est tout à fait vrai, et d'autres le font aussi, et dans ce cas-là, c'est plus une question de chasse. C'est pour ça que moi, j'essaie de différencier des actions en faveur de la biodiversité et de différencier ça avec des actions comme la chasse, parce que sinon, si... il suffit de planter une haie pour dire que la chasse est écolo. Bah dans ce cas-là, le jour où Airbus ou Renault plantera des haies, on en conclura que l'avion ou la voiture, c'est écolo. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut différencier les choses. Et moi, je ne parle pas des chasseurs dans leur ensemble. Je parle d'une activité qui s'appelle la chasse, qui consiste à traquer et tuer des animaux. Et ça, effectivement, ça me semble assez anachronique. Mais en fait, s'agissant de la biodiversité, il faut dire que ce n'est pas la chasse qui est le principal facteur de déclin de la biodiversité. Hein. C'est juste un facteur parmi beaucoup d'autres. Et essentiellement, c'est surtout... une forme d'agriculture, certaines formes d'urbanisation, c'est nos modes de vie plus globalement qui sont responsables, hélas, du déclin de la biodiversité.
Bon, revenons sur ce livre, Ma Campagne, qui sort aujourd'hui dans les librairies. Comment vous est venue l'idée de ce livre? Parce que le concept est très simple, c'est-à-dire de sortir de chez soi, de regarder autour de soi, et en fait de voir un lien entre le simple oiseau et la biodiversité et son règne animal.
Oui, parce que c'est souvent un mot qui est assez théorique, hein, comme vous disiez, la biodiversité, c'est maintenant un mot qu'on entend partout, et tant mieux, c'est devenu même politiquement correct. Et souvent, on fait pas tous toujours très facilement le lien avec des choses très concrètes qu'on a autour de chez soi. Et là, ce qui est pour les gens qui ont la chance de pouvoir sortir à moins de 10 km de chez eux et d'être directement dans la campagne, il y en a quand même beaucoup, et ben même dans ce rayon-là très proche, ce qu'on appelle la nature ordinaire, les petites fleurs, les petits oiseaux, les plantes, les arbres, tout qui paraît complètement banal et qui l'est d'ailleurs, hélas, de moins en moins, en tout cas dans certains secteurs, C'est en observant ça et en se rendant compte des liens qu'il y a. Par exemple, simplement, si on prend le cas, comme là c'est le début du printemps, des fleurs qui commencent à apparaître et du butinage des insectes, si on observe, je vous prends un exemple tout bête parce que ça me vient comme ça, mais la quantité d'insectes qui butinent autour des fleurs, rien qu'au bout du jardin ou dans la campagne ordinaire, ça nous fait comprendre le lien qu'il y a entre l'importance des insectes, par exemple, et de la flore au-delà des abeilles domestiques. C'est vrai que, par exemple, on a souvent l'image de l'importance des abeilles domestiques, des abeilles à miel pour la pollinisation des plantes, soit domestiques, soit sauvages. Mais en fait, maintenant, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est la diversité des insectes en général, y compris les mouches, y compris les papillons, y compris même les punaises parfois, y compris des coléoptères, toute une diversité d'insectes en fait qui est très très utile à la pollinisation et donc à la diversité des plantes. Donc voilà, essayer de comprendre ce genre de lien là pour dépasser parfois certaines visions qui sont un petit peu trop simplistes parce qu'on l'a tous appris même parfois à l'école, les abeilles, c'est grâce aux abeilles par exemple qu'il y a des plantes. Non, c'est grâce à la diversité des insectes.
Et alors aujourd'hui, quelle espèce commune va le plus mal? On a souvent entendu les oiseaux communs vont très mal, sont en train de disparaître. Mais quelle espèce va mal?
Alors c'est surtout les espèces qui sont liées vraiment au milieu agricole. Les espèces qui sont liées plutôt au milieu forestier se portent pour beaucoup d'entre elles pas trop mal, enfin bien qu'il y a plein d'exceptions. Mais c'est par exemple les oiseaux chanteurs des campagnes, alors surtout dans les zones où la grande culture remplace des zones de culture en mosaïque plus diversifiées. Pardon. Donc c'est toutes sortes d'oiseaux chanteurs des haies, et les amphibiens aussi, parce que les zones humides sont encore beaucoup malmenées. Donc en fait, tous les animaux qui vivent dans les zones humides sont plutôt mal en point. Mais en fait, il n'y a pas... on pourrait citer plein d'espèces différentes, mais plein d'espèces de grenouilles, plein d'espèces de passereaux chanteurs... les hirondelles, par exemple, qui sont encore assez communes, sont encore en déclin parce qu'elles trouvent de moins en moins d'endroits où installer leur nid, parce que les pesticides utilisés largement en agriculture sont encore responsables de la disparition des insectes et donc en cascade des oiseaux qui s'en nourrissent. C'est toute cette diversité qui était jusqu'il y a quelques décennies encore très banale et très ordinaire qui est menacée, mais pas partout, parce qu'il faut bien dire qu'il y a encore des territoires où en fait le poids de l'agriculture intensive est beaucoup moins fort et donc où les animaux se maintiennent. Effectivement, notamment dans les Alpes du Sud, dans les Préalpes, c'est des endroits qui sont quand même mieux préservés qu'ailleurs.
Et tout un chacun peut faire quoi? Alors on parle beaucoup des politiques, mais nous, de manière quotidienne?
Alors nous, de manière quotidienne, c'est alors déjà faire pression sur les politiques quand même, parce que dans le choix de vote, dans le choix de ce qu'on demande aux élus, aux gens qui se présentent aux élections, c'est primordial. Il y en a beaucoup qui font des discours. Quand vous regardez ce que veulent faire concrètement chacun des représentants politiques en matière d'écologie, c'est souvent pas fameux, quoi. Donc faire pression quand même en tant que citoyen auprès des politiques. Et puis dans notre vie quotidienne, c'est là que ça devient compliqué à faire passer le message parfois, parce que il faut dire que il y a les petits gestes, il y a les grands gestes individuels et qui ne remplaceront jamais les grandes décisions politiques, parce que les grandes décisions politiques, c'est sur le choix ou l'interdiction de tel ou tel pesticide, de tel mode d'agriculture. Mais on peut quand même agir chacun dans son mode de vie. Alors, il y a un facteur qui est très simple et qui ne met pas tout le monde d'accord, et là, c'est dans notre consommation, par exemple. C'est vrai que plus on mange de produits animaux, par exemple, vous allez dire, mais quel rapport? En fait, il faut savoir que la majeure partie des terres cultivées en Europe et en France, des champs cultivés, je ne parle pas des prairies, les champs cultivés le sont majoritairement pour nourrir les animaux dans les élevages intensifs, par exemple. Et donc, qui dit grande surface agricole avec des pesticides, dit chute de la biodiversité. Donc, si on réduit fortement sa consommation de produits animaux, par exemple, on peut jouer sur ce facteur. Dans son choix de mode de vie, quand on habite à la campagne, c'est vrai que... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien sûr, mais c'est plus vertueux, on va dire, d'essayer de restaurer, par exemple, une maison que de construire une maison ou de faire construire une maison qui va prendre la place de terres agricoles ou de prairies ou de milieux naturels. Donc, c'est des choses qui sont compliquées à faire accepter, ou un discours qui est difficile à faire passer, parce que ça remet tellement en cause notre mode de vie que le petit geste, il est trop petit, ne suffit pas, hélas.
Vous le disiez justement, tout un chacun peut aussi saisir les politiques. Est-ce que vous avez saisi les députés dans les Alpes du Sud et notamment Pascale Boyer, la députée des Hautes-Alpes, par rapport au vote concernant la réintroduction, la réautorisation de deux insecticides neurotoxiques, on parle des néonicotinoïdes, hein, qui ont été autorisés à nouveau sous la pression du lobby betteravier.
Non, j'ai pas saisi en particulier là, mais c'est absolument quelque chose de crucial que les politiques comprennent que on n'a pas un choix, c'est pas une lubie d'écolo, quoi. Donc d'ailleurs, si elle m'écoute ce matin, c'est pas une lubie d'écolo d'arrêter avec ces produits-là, parce que il y a le produit en tant que tel qui est terrible pour la biodiversité, et c'est montré maintenant par plein d'études depuis des décennies, donc il y a même pas de débat en fait là-dessus. Mais en fait, au-delà même du produit lui-même, c'est toute une question de choix de politique agricole en fait. Et qui dit néonicotinoïde et qui dit glyphosate ou autre produit, parce qu'il y en a plein dont on connaît pas du tout le nom au quotidien, qui en fait sont liés à un modèle agricole en fait. Et ces produits-là généralement sont liés aux grands champs cultivés dans lesquels on arrache les haies, aux grandes surfaces agricoles dans lesquelles il n'y a plus de biodiversité. Et en fait, ça fait maintenant, je sais pas, des décennies que tous les scientifiques alertent là-dessus, les naturalistes alertent là-dessus, et qu'on a encore des choix politiques qui sont vraiment archaïques, parce que certains des représentants politiques qui sont censés nous représenter, faut bien dire, ont une vision vraiment de la ruralité, de l'agriculture, qui est complètement périmée, complètement dépassée, et qui tient pas du tout compte des connaissances scientifiques qu'on a maintenant.
Merci beaucoup Pierre Rigaud d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc bel et bien naturaliste, comme vous le disiez en début d'interview, naturaliste dans les Alpes du Sud. Et donc vous sortez aujourd'hui dans les librairies Ma Campagne aux éditions Mes Balades Écolo. Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.